Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour. Pendant le confinement, de nombreuses villes ont été comme figées. Plus personne dans les rues, moins de circulation et de chantiers. Le bonheur pour les oiseaux qui en ont profité pour récupérer de l'espace et des décibels. Plus besoin de chanter fort et aigu à des heures indues. Désormais, c'est en journée sur une amplitude modérée. Peut-être les avez-vous écoutés, mais cela a été de courte durée. Alors pour continuer à vous sensibiliser à leur présence, nous vous emmenons dans les Balkans à la découverte du vautour égyptien, le Pernecoptère. Et dans le sud de la France, dans la réserve naturelle de l'archipel de Riou, située près de Marseille, où vivent les puffins cendré. Et si cette crise sanitaire vous a donné envie d'agir, nous vous ferons découvrir un cours en ligne gratuit et ouvert à tous, un MOOC créé par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, pour vous donner une culture de base et les clés pour monter un projet. Bienvenue dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Dans les Balkans, des bergers se mobilisent pour sauver le vautour égyptien, l'oiseau sacré des civilisations de l'Antiquité. Le Pernecoptère est le seul vautour migrateur d'Europe. Mais la vie de l'oiseau d'Isis est en sursis. Ce beau rapace blanc et noir est l'une des espèces les plus menacées au monde. Il a perdu 80% de ses effectifs en 30 ans. Moins de 10 couples survivent dans les montagnes albanaises, où l'espèce est suivie de près par la campagne internationale Save the Egyptian Vulture. Louis Seyé est allé à leur rencontre au-dessus des canyons, dans le sud de l'Albanie.
C'est un couple. Oh. Oh, quelle nouvelle. J'avais vu qu'un. Sans deux.
Il est tout juste 10 heures et il est bien là, à l'heure au rendez-vous. Comme presque chaque matin, un grand oiseau noir et blanc fait son apparition au-dessus des prairies de Nivitsa, un petit village des montagnes du sud de l'Albanie. L'ornithologue Myriane Topi ne perd pas une seconde pour sortir son appareil photo. Surtout que cette fois-ci, ce n'est pas un, mais deux vautours percnoptères qui planent dans le ciel bleu.
Je suis venu en fait deux fois et j'avais vu qu'un seul individu. J'avais vu pas le couple. Et j'étais inquiète. J'avais peur que le territoire, ça pouvait être occupé qu'avec un individu. Mais maintenant que je vois que c'est un couple, je suis vraiment contente parce que ça veut dire que le territoire, c'est actif. Et le couple, il va donner des juvéniles. La population de la vautour percnoptère, il va être peut-être augmentée. C'est la seule manière, en fait.
Unique vautour migrateur d'Europe, le percnoptère est aussi l'un des oiseaux les plus rares du continent. En France, en Italie et dans bien d'autres pays, ce rapace à tête jaune a failli disparaître.
C'est présent encore seulement en Espagne. Et aussi en France, France du Sud. Et il y a une petite population aussi en Italie. Et après, on peut voir dans le Balkan, même dans le Balkan, la population, c'est vraiment petite. Il y a environ 50 couples. Et la population de vautours percnoptères en Albanie, c'est environ, on va dire, 10 couples.
Menacé de disparition au niveau mondial, selon l'IUCN, le vautour percnoptère est particulièrement en sursis dans le sud-est de l'Europe. En 30 ans seulement, ses effectifs ont fondu de près de 80% dans les Balkans.
La population de cette espèce, il a eu une déclin dramatique dans les dernières années. En principal, chose qui est responsable pour ça, c'est l'empoisonnement accidentelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de troupeaux. Les gens ici, ils vivent avec le troupeau. La principale activité pour faire la vie, pour avoir la vie ici, c'est l'élevage. Et comme il y a beaucoup de troupeaux, il y a aussi des loups qui viennent ici et attaquent le troupeau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le loup il fait une attaque, les bergers, ils mettent du poison dans le cadavre d'une chèvre pour que le loup de revenir et de manger.
Dans les Balkans comme en Asie, l'empoisonnement des cadavres dont il se nourrit est une vraie menace pour le percnoptère. Il faut dire que le vautour égyptien apprécie beaucoup les prairies comme celle de Nivitsa et ses grands troupeaux de chèvres et de brebis.
Le percnoptère, il a besoin des zones qu'ils ont ouvertes comme ça, pas de bois, parce que sur le bois, il ne peut pas voir la nourriture. Mais dans les pâturages comme ça, la vautour percnoptère, il peut voir les cadavres morts. Comme il y a beaucoup de troupeaux, il va avoir aussi des animaux qui se meurent en raison de maladies ou des accidents ou de loups. Et voilà, comme ça, ça veut dire qu'il va avoir plus d'opportunités pour la vautour percnoptère pour avoir de la nourriture.
Pour sauver les derniers percnoptères des Balkans, le programme Une nouvelle vie pour le vautour égyptien a vu le jour. Un projet financé par l'Union européenne et dirigé par l'ONG bulgare pour la protection des oiseaux. En Albanie, les associations cherchent à s'appuyer sur les plus proches voisins des vautours, les bergers comme Mouyo. Né à Nivitsa, Mouyo est chargé d'offrir les cadavres de chèvres ou de brebis à cet oiseau qu'il connaît si bien.
J'amène la nourriture aux vautours percnoptères dans cette station que les ONG ont construite ici. Le vautour percnoptère vient en même temps que le coucou. Et l'arrivée du coucou dans notre région est synonyme de printemps. Quand le coucou arrive, on rassemble le bétail. Alors du coup, dès qu'on aperçoit le vautour percnoptère, on se prépare pour rassembler les troupeaux.
En fait, la vautour percnoptère dans cette région ici, c'est aussi un élément culturel. C'était un oiseau que tout le monde il connaissait, même s'il ne l'avait pas vu, mais il avait entendu le nom vautour percnoptère, qui en Albanie, c'est Kali i Qyqes. Que ça veut dire cheval de coucou.
Le cheval de coucou.
De coucou.
Et alors, pourquoi on l'a appelé comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire, le cheval de coucou?
Ça, c'est une légende très intéressante. À l'époque, les gens, ils voyaient tout le temps, à la printemps, la vautour percnoptère qu'ils volaient dans le ciel. Et dans le même temps, il écoutait aussi le coucou qu'il faisait coucou, 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 truc comme ça. Et les gens, ils avaient compris que pendant l'hiver, les oiseaux, ils ne restent pas ici. Et pour le vautour percnoptère, comme c'est un grand oiseau, c'était facile pour eux pour imaginer que voilà, la vautour percnoptère c'est un grand oiseau, il peut faire de grandes distances. Mais pour le coucou, c'était un peu difficile d'imaginer qu'un oiseau petit comme ça, il peut faire de grandes distances comme ça. Et c'est pour ça que les gens ils pensaient que c'est la vautour percnoptère qui porte dans le...
Dans le dos.
Voilà, sur le dos, le coucou.
Dans la région, on se rappelle quand les percnoptères étaient bien plus nombreux à planer au-dessus des canyons. Pour établir ces conditions de vie, les biologistes tentent d'en savoir un peu plus sur les habitudes des vautours.
J'ai le plaisir de vous présenter. Ce sont deux jeunes très enthousiastes pour la conservation de vautours percnoptères en Albanie. C'est Lady et Jerry. Tous les deux, ils viennent de l'association PPNEA. Pepene, c'est l'association pour la protection et la préservation de l'environnement naturel en Albanie. Et en fait, on est venu ici pour voir le piège caméra, parce qu'on a installé un piège caméra ici pour voir si la station supplémentaire est visitée ou pas par la voiture pernoctaire.
Alors, des oiseaux ont été photographiés.
Entre le 16 avril et la journée d'hier, deux espèces d'oiseaux ont été photographiées.
Oh, super.
C'est la corneille mantelée, Corvus conix. Encore une corneille, le grand corbeau, en vol et pendant qu'il se nourrit.
Magnifique. C'est un très bon signe, parce qu'au début, le vautour percnoptère ou l'aigle royal ne viennent pas sur ce genre de station. Ce sont deux espèces qui ont besoin de se sentir en sécurité. Et le fait que la corneille ou le grand corbeau viennent se nourrir à la station, ça veut dire qu'on devrait bientôt avoir aussi la visite de l'aigle royal et du percnoptère.
En fait, la dernière fois qu'on était là pour placer les pièges photographiques, on a vu un aigle qui planait au-dessus de nous.
Et l'aigle royal, c'est aussi une espèce menacée dans notre pays. Sa population est en forte régression, donc en fait, comme ça, cette station ne sert pas seulement aux percnoptères, elle sert aussi à l'aigle royal.
Le travail de longue haleine des ONG porte déjà ses fruits. Alors que le vautour n'était pas vraiment une préoccupation des habitants de la région, ceux-ci le perçoivent maintenant comme un atout. Une possibilité d'attirer un peu de touristes dans cette région isolée.
Avant, on le regardait comme un oiseau du coin. Maintenant, on le regarde différemment parce que les gens s'y intéressent. Et les touristes qui viennent ici veulent le voir. Et nous, on veut aussi savoir où il est pour pouvoir leur répondre quand ils nous demandent « Avez-vous vu le vautour percnoptère ?»
Alors, Myriane, est-ce que c'est justement ça le but de votre projet, c'est d'intégrer, c'est pas seulement l'oiseau? Parce que pour le protéger, il faut aussi que les habitants, comme Muyo, ils soient avec vous, en fait. Sinon, ça ne peut pas marcher.
Exactement. En fait, c'est eux qui peuvent protéger la vautour percnoptère, plus de nous. Nous, on vit à Tirana, dans les autres villes de l'Albanie. Eux, ils sont ici, tous les jours. C'est eux, en fait, qui peuvent sauvegarder la vautour percnoptère.
Réconcilier l'homme et la nature dans ces montagnes albanaises où vie sauvage et humaine sont inséparables, le défi est en passe d'être relevé. Pour Myriane Topi, cet éboueur naturel désert a toujours été un allié précieux de la vie humaine.
Dans les pays pauvres, moi je crois que pour l'homme, ça pouvait être très difficile pour survivre sans ce genre d'oiseau qui aide à nettoyer les maladies en fait.
Ce rôle crucial dans l'écosystème et ses bienfaits pour l'humanité, des peuples anciens l'avaient déjà observé et même honoré. Dans l'Égypte des pharaons, le percnoptère était associé à la puissante déesse Isis. Cet oiseau très présent sur les bords du Nil avait même droit à son hiéroglyphe.
L'oiseau s'était considéré sacré parce que les gens ils voyaient que cet oiseau il tournait la mort sur la vie. Que ça veut dire que le carcasse, l'animal qui s'était mort, s'était mangé par cet oiseau et s'était après transformé dans la vie. Quoi.
De l'Albanie jusqu'au Niger, en passant par la Turquie ou la Jordanie, les biologistes et les bergers s'activent pour éviter la disparition du vautour percnoptère. Mais face à la destruction rapide de son habitat, cette mission a tout l'air d'une course contre la montre.
« Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, les oiseaux sont de la poussière d'âme, écrivait Victor Hugo. Une raison de plus pour les protéger. Heureusement, il y a des passionnés, comme dans la réserve naturelle de l'archipel de Rioux, située au sud de Marseille. Nous partons à la découverte des puffins cendrés, des oiseaux protégés de la célèbre famille des albatros, plumage gris et bec jaune, les yeux soulignés de noir. Les puffins cendrés hivernent en mer au large de l'Afrique australe et reviennent sur ces îles du sud de la France durant leur période de reproduction. Leur cri hypnotique aurait inspiré aux marins le mythe du chant des sirènes. Les puffins cendrés du parc national des Calanques, c'est un reportage de Cerise Maréchaux.
Donc c'est le quartier général pour préparer la mission.
C'est ça, donc c'est ici qu'on stocke un petit peu du matériel, qu'on se prépare avant de partir sur le terrain. Il n'y a pas de quoi tenir un siège, mais il y a de quoi tenir quelques jours.
Ça vous arrive de passer la nuit dans ce petit refuge ?
Oui. Les manipulations sur les puffins, ça se fait essentiellement la nuit. C'est des oiseaux pélagiques qui vivent en mer et qui reviennent à terre uniquement pour les besoins de la reproduction. Particulièrement la nuit, hormis les périodes où il y a l'œuf ou le poussin, où les adultes se relaient même en journée. Mais à ce moment-là, on ne les manipule pas, on les laisse tranquilles. Sinon, pendant les périodes de prospection ou d'accouplement, les oiseaux reviennent à la tombée de la nuit, au terrier, et repartent avant le lever du jour. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont très peu connus des gens, c'est que la journée, ce sont des oiseaux qui sont larges et qu'on ne retrouve pas sur les îles. Les puffins, on les retrouve que le soir, que la nuit. Comme les mécaniciens pour faire les vidanges ou les agriculteurs pour aller traire leurs vaches.
Oui, vous devez être plus à l'aise avec ça qu'avec la grosse parka que vous aviez sur le bateau, un peu encombrante.
Oui, oui, surtout quand il faut manipuler, quand il faut crapahuter un peu ou se glisser dans des fissures pour aller chercher des oiseaux, c'est quand même plus confortable.
Vous avez emmené quoi comme équipement là ?
Alors là, c'est du matériel de bagage, donc une pince qui permet de mettre une bague métal muséum qui est gravée d'un numéro unique, qui permet d'identifier les oiseaux. Donc quand on capture un oiseau, soit c'est un oiseau qu'on a déjà bagué, donc à ce moment-là, on fait simplement le contrôle de la bague, et soit c'est un oiseau qui n'a jamais été capturé, jamais bagué, et on lui pose une bague sur la patte qui permettra de l'identifier sur les futurs contrôles pour voir s'il a changé de terrier, s'il a changé de partenaire, la longévité de l'oiseau. Donc du matériel de bagage, une pince, et puis du matériel pour faire quelques mesures biométriques. Un pied à coulisse pour faire des mesures sur le bec, un peson pour prendre le poids, un réglé pour prendre des mesures de tarse.
Donc là, on a tous les trois enfilé une lampe frontale. Donc là, on fait très attention, on est vraiment à flanc de pente. C'est très caillouteux. Et sur la gauche, c'est pique. Ça pique dans le vide, dans la mer. Là, on est toujours sur l'île de Rioux.
Ouais, toujours sur l'île de Rioux et sur une colonie qu'on appelle inférieur clocher.
Pourquoi ?
Donc là, on ne le voit pas, mais les falaises au-dessus, ça ressemble un petit peu à un clocher. Donc c'est la colonie qui est juste en dessous de ces falaises-là, ce clocher-là.
Et là, par rapport à Marseille, on est où en fait ?
Dans la partie sud, juste en face des Calanques, dans le fameux 8e arrondissement de Marseille.
Donc on a pris le Zodiac, on a navigué 20-25 minutes à peu près ?
Ouais, c'est ça, 20-25 minutes. Et là, on est face aux Calanques, face au massif de Marseille Vert, exactement.
Là, on cherche quoi
En fait, il y a eu un programme financé par les aires marines protégées. Et le CEF CNRS a installé des GLS, des géolocalisateurs, sur des puffins cendrés, pour suivre leur déplacement en période internuptiale. Donc, on doit recapturer les oiseaux pour récupérer ces petits GLS, pour pouvoir analyser les trajets qu'ils ont effectués pendant cette période. C'est des oiseaux qui hivernent en Atlantique et qui vont jusqu'en Atlantique Sud, qui passent le détroit de Gibraltar, qui longent la côte ouest africaine et qui reviennent en période de reproduction sur leur site ici sur les îles de Marseille.
Il y a le couple dans l'intérieur.
Ah, il y a un couple ?
Ouais, tu peux peut-être éteindre. Je vais le mettre en rouge. Parce que le premier terrier, où il y a un GLS à récupérer, il est juste là, juste au-dessus.
On aperçoit nettement leur ventre blanc.
Il n'a pas mis de gants. Non, en fait, on est plus protégé avec les gants, effectivement. Mais on sent un petit peu moins bien ce qu'on fait.
Lui, c'est un contrôle, mais il n'est pas équipé.
Cassélia qui tient dans ses mains un peu fin. Comment tu le tiens ?
En fait, je l'attrape par l'arrière plutôt. Je lui attrape les ailes par une main avec le bas du corps et les pattes. Comme ça, il est bloqué, on ne lui abîme pas les ailes. Tenu comme ça, il ne se sent pas trop stressé quand même. Puis on ne le garde pas très longtemps.
Tu veux le remettre celui-là ?
Ouais.
En soins de zozo qui reviennent chaque année se reproduire dans le même terrier. Donc ils sont matures sexuellement à 4-5 ans à peu près. Pendant leurs 4-5 premières années, ils ne mettent pas une patte à terre, ils restent en mer tout au long de l'année. Et puis quand ils sont en âge de se reproduire, ils reviennent à proximité de leur terrier de naissance. Donc ils n'ont jamais revu depuis 5 ans, mais et ils s'installent. Et puis après, ils restent fidèles à ce site de reproduction et aux partenaires. Pendant plusieurs années, on a des oiseaux qui sont contrôlés, qui ont plus de 30 ans, dont certains qui sont dans le même site de reproduction avec le même partenaire depuis 10 ans, 15 ans.
Pendant 5 ans, il reste en mer, il ne touche pas terre.
Il reste en mer. Donc là, l'oiseau qu'on vient de relâcher, c'est un mâle. Donc on reconnaît au champ, il y a un dimorphisme entre le mâle et la femelle pour le champ. Et donc la femelle a une voix beaucoup plus grave. Mais sinon, au niveau du plumage, ils sont exactement pareils. C'est des oiseaux qui peuvent vivre certainement une quarantaine d'années au minimum.
Et puis qui sont fidèles.
Et qui sont fidèles.
Ça, c'est rare chez les oiseaux de rester aussi longtemps avec le même partenaire.
Chez ce qu'on appelle les Procellaridés, là, donc c'est la famille des albatros, c'est un caractère qui est commun à toutes les espèces. Donc on va contrôler celui-là, comme ça après on relâche. EC,
oui.
100, 158. Voilà, ça commence à s'activer sur les colonies. Tiens, le contorsionniste là, tu arrives à le voir d'ici ?
Non, mais je suis désolée.
Il y a un des terriers qui est situé, qui a été installé dans un endroit tellement compliqué à atteindre que Célia doit se contorsionner et s'allonger entre deux parois très étroites.
Donc longueur du bec, 50,4. La hauteur du bec au niveau du crochet, de la narine, pardon, 17,9. Et la hauteur du bec au niveau du crochet, 13,4.
Pourquoi c'est important de mesurer la longueur du bec ?
Vous permet d'avoir une bonne idée du sexe aussi, si on n'a pas entendu l'oiseau se chanter. A priori, c'est plutôt un mâle qui a un bec assez fort.
Je vais aller voir s'il y a le partenaire dans le terrier.
I don't know. Et le patrimoine de l'île de Riou, qu'est-ce qu'il a de très particulier ou d'exceptionnel ?
Comme souvent sur les îles, c'est un refuge de ce qu'on peut trouver sur le continent. Alors, pas forcément au niveau des oiseaux marins, parce que là, on est en train de manipuler les puffins, c'est des oiseaux qui sont uniquement insulaires, qui se reproduisent que sur des îles. Mais après, au niveau de la végétation, par exemple, c'est un petit peu des refuges de ce qu'il peut y avoir sur le continent, mais qui subit beaucoup moins de dégradation, même si c'est des îles, aux yeux des Marseillais, qui ne sont pas forcément très riches au niveau faune-flore. C'est des îles qui sont arides, qui sont avec une végétation qui est très discrète, qui est rase. Là, par exemple, des oiseaux qui sont super discrets, qu'on retrouve que la nuit. Donc c'est vrai qu'au premier abord, pour quelqu'un qui s'y intéresse pas forcément ou un petit peu novice, ça peut paraître des îles où il n'y a pas forcément grand-chose à protéger, alors qu'au final, on se retrouve avec un patrimoine naturel qui est très riche, que ce soit au niveau de la faune et de la flore. Et... quand on n'arrive pas à les attraper à bout de bras, on utilise ce qu'on appelle une repasse. C'est un petit magnétophone, un petit haut-parleur avec un MP3, on diffuse leur chant. Et donc quand on diffuse le chant du mâle, le mâle vient voir ce qui se passe, et quand on diffuse le chant de la femelle, c'est la femelle qui sort. On va voir un peu qui est cet intrus qui est à la porte. On va voir là ce que ça donne. Le mâle n'est pas bagué, donc c'est pas celui qu'on cherche. On va le baguer, ouais, dans tous les cas. Et donc il est sorti... voir ce qui se passait et défendre son territoire et sa dame. Il y a la femelle aussi, elle couple.
En principe, c'est le mâle qui a été équipé, ouais, et bagué. Donc.
Bah, du coup, il y a eu encore un changement de partenaire.
L'année dernière, c'était un échec sur œuf, mais cette année, c'est un changement.
Bon, allez, on va le baguer.
Qu'est-ce que vous appelez un échec ?
Un échec, c'est quand ils sont... soit ils ne viennent pas se reproduire, soit il y a échec à la reproduction, c'est-à-dire qu'il y a abandon de l'œuf... Parfois, ça vient d'un problème au niveau des adultes. Parfois, il y a un problème au niveau de l'œuf qui peut être clair. Quand la reproduction ne va pas à son terme. Sachant que c'est des oiseaux qui pondent un seul œuf par an. S'il y a échec, il n'y a pas de ponte de remplacement derrière. C'est terminé pour l'année. Et qu'on arrive quand même à des bons succès de reproduction avec les actions de gestion qui sont menées. Des succès de reproduction de 0,8, 0,9 jeunes à l'envol par couple. Donc c'est 80 à 90% de réussite.
Alain Mante, le conservateur, me racontait que le chant des puffins aurait peut-être inspiré le mythe du chant des sirènes.
Ça viendrait des interprétations des marins qui restaient de longues semaines ou de longs mois en mer et qui avaient certainement l'imagination de décupler. Et ça serait effectivement à l'origine du chant des sirènes.
C'est un cri qui a quelque chose de très humain.
Oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est assez particulier. Pas très sirène glamour, hein, quand même. On va vraiment être resté seul entre marins pendant un bon moment.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Si vous avez envie de changer le monde ou plus modestement de lutter contre la dégradation de votre environnement tout en créant une activité économique, tendez l'oreille, ce qui va suivre va vous intéresser. Depuis 3 ans, l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable et l'Université Senghor d'Alexandrie ont créé des cours sur Internet, que l'on appelle aussi des MOOC, gratuits et ouverts à tous, pour vous former sur les enjeux du développement durable et vous donner les clés pour vous lancer dans un projet. Nous allons tout vous dire avec Martin Yelkouni, le directeur du département environnement de l'Université Senghor d'Alexandrie, qui coordonne le contenu de ces cours. Deux porteurs de projets au Niger et à Madagascar témoigneront de ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils ont réalisé. Mais tout de suite, nous sommes en ligne avec Lionel Ngo Samnik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de programme à l'Institut de la francophonie pour le développement durable et vous êtes la coordinatrice de la plateforme Objectif2030.org, qui est donc la plateforme sur laquelle il faut se connecter pour avoir accès à ces MOOC. Alors, comment avez-vous eu l'idée de créer cette série de cours ouverts ?
Lors de l'adoption des objectifs de développement durable en 2015, la communauté internationale s'est engagée à réaliser un programme très ambitieux pour la planète, l'humanité, la prospérité et la paix, selon la formule consacrée. Mais il nécessite aussi bien des milliards de dollars que l'engagement, la mobilisation et la participation de tous. En même temps, nous avions constaté un énorme besoin d'information et de formation du grand public sur les enjeux globaux du développement durable. Il faut relever, pour le saluer, que les populations sont de plus en plus conscientes que la préservation de notre planète et par extension de notre humanité est un enjeu majeur. Toutefois, elles sont souvent techniquement démunies et se sentent impuissantes face à l'immensité des défis. C'est alors que nous étions conscients du fait que nos modes d'intervention présentielle classiques n'étaient peut-être plus en mesure d'apporter une réponse significative aux préoccupations portées par l'agenda 2030. Nous avons donc imaginé un mécanisme opérationnel qui ancrerait son action sur les co-bénéfices des outils numériques. Cela permet de maîtriser les coûts et de les mutualiser et donc d'accroître la mise en échelle. L'empreinte écologique est réduite et l'exemplarité environnementale est assurée. Mais aussi et surtout, ces outils offrent une facilité à se jouer des territorialités pour bâtir une initiative frugale, citoyenne, solidaire, éco-responsable, accessible dans tout l'espace francophone. En bref, c'est un tout en un.
Et alors, quels résultats avez-vous obtenus en 3 ans?
Il faut le dire d'emblée, à sa mise en place, nous prévoyons former 10 000 francophones, mais depuis 3 ans, nous avons largement dépassé ces objectifs puisque nous avons formé près de 80 000 francophones dans 60 pays en 8 sessions de formation, avec un taux d'assiduité de 53%, loin des 20% constatés pour les cours en ligne. Parmi ces étudiants, à ce jour, nous avons 34 200 qui ont obtenu leurs attestations de réussite et ce chiffre grimpe tout le temps puisqu'il y a une session qui est en cours actuellement. Cela montre l'appropriation de cette initiative, surtout dans les pays francophones du Sud, mais aussi sa capacité de résilience en temps de crise comme actuellement. L'initiative n'est pas juste une plateforme de formation, c'est également un parcours qui permet de rendre le développement durable une réalité concrète. Il faut dire que plus de 50% de nos apprenants sont de jeunes professionnels qui s'interrogent sur la plus-value de la connaissance environnementale et son apport dans leur parcours de carrière. L'environnement est une filière d'avenir. Nous avons d'ailleurs entamé le développement de 2 nouveaux cours, dont un sur les métiers de l'environnement et un deuxième sur les technologies de l'environnement.
Merci beaucoup Lionel Ngo-Samnik. En tout cas, on entend votre enthousiasme communicatif.
Je vous remercie.
Martin Yelkouni, bonjour.
Bonjour Madame Ra.
Vous êtes le directeur du département environnement de l'université Senghor d'Alexandrie et c'est vous qui coordonnez les contenus de ces cours qui, je le répète, sont en ligne, gratuits et ouverts à tous. C'est aussi vous qui les présentez. Alors, sur quels critères avez-vous élaboré les programmes ?
Alors, merci pour votre question. Ces programmes ont été élaborés sur plusieurs critères, dont principalement les besoins des formations en Afrique francophone et dans le monde francophone en général, et puis la corrélation avec les projets de l'IFDD et une corrélation avec les maquettes de l'Université Senghor pour les formations du master.
Et alors du coup, quels sont les MOOC proposés jusqu'ici? Il y a 4 formations, c'est ça, principal?
Oui, nous avons 4 MOOC. Le premier, c'est celui qui concerne les objectifs du développement durable. Et à la suite de ce premier MOOC, nous avons rajouté 3 autres MOOC. Un sur l'économie et la gestion des ressources naturelles, un autre sur le droit et la protection de l'environnement et enfin un quatrième qui porte sur les évaluations environnementales des projets politiques de développement.
Et comment se déroule un cours? C'est sur 4 semaines, c'est ça?
Un cours se déroule en fonction du nombre de modules. nous avons les modules varient entre 4 à 8. Et donc, pour chaque module, il y a une semaine de formation. Et durant cette semaine, il y a un formateur qui répond aux différentes questions des auditeurs directement en ligne et il y a un échange chat entre les auditeurs également. Par ailleurs, nous mettons à disposition un ensemble de documents, des manuels didactiques qui accompagnent toutes ces 4 formations.
Et alors, quel sera le contenu du prochain MOOC qui va donc démarrer le 8 juin, hein, lundi prochain? Et le thème, c'est l'économie de l'environnement et des ressources naturelles. Donc, pour donner envie aux auditeurs de le suivre, donnez-nous un petit peu de son contenu.
Alors, on va apprendre d'abord, c'est quoi les fondements de l'économie de l'environnement? Ces fondements sont sur la base de l'économie classique qu'on relaie à un second plan pour prendre en compte nos comportements déviants qui détruisent l'environnement. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les méthodes, ce sont les outils que nous avons en tant qu'économistes, les outils qui nous permettent de régler les problèmes d'environnement. La question de la fiscalité environnementale, la question des prix, les bons prix, les prix qui reflètent nos comportements par rapport à la protection de l'environnement. Et bien évidemment, la partie gestion des ressources naturelles renouvelables sont l'ensemble des outils qui existent. Est-ce qu'il faut que ce soit l'État, le privé ou d'autres modes de gestion qui existent? On sait qu'en Afrique, la gestion de type communautaire, il y en a qui disent participatif, existe et ce sont des modèles qui ont montré souvent des résultats probants en tenant compte des aspects socio-économiques des acteurs de terrain.
Alors pour donner envie aussi aux auditeurs de suivre ces cours, Lionel nous l'a dit juste avant, il y a de plus en plus de participants, hein, c'est un beau succès. Et à la fin, on a une attestation de réussite qui est délivrée, qui prouve qu'on a suivi ces cours. Ça peut servir pour monter des projets justement, pour gagner en crédibilité.
Alors le fait de réussir à un MOOC donne une attestation de formation, ce qui signifie que l'université valide le parcours de formation de cette personne qui a obtenu une certaine moyenne. Et sur cette base, on valide donc des compétences, on valide aussi des connaissances et cela permet pour certains de pouvoir les valoriser soit dans des concours de recrutement, soit tout simplement dans un parcours universitaire dans leur pays ou bien qu'ils en utilisent dans leur travail, en particulier pour les professionnels. Donc, c'est un ensemble de connaissances et d'outils et de pratiques qui permettent d'être beaucoup plus efficace pour son travail de tous les jours.
Merci Martin Yelkouni.
Merci beaucoup et merci à votre émission et à vous pour cet engouement. Je suis régulièrement à vos émissions et donc c'est avec plaisir qu'on aura à reparler d'autres sujets en matière d'environnement.
Et parmi les projets accompagnés par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, il y a le vôtre, Abdou Maman Zaberou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur de l'AAG, de l'Association de jeunes écologistes pour le développement durable, qui est basée à Niamey, avec des représentations dans 4 régions. Vous intervenez notamment dans le terroir de Kogourou, dans le sud-ouest du pays, dans la commune urbaine de Loga. C'est dans la région de Dosso. Et alors, c'est une zone aride où les populations souffrent d'insécurité alimentaire, notamment à cause de la dégradation des ressources naturelles. Dans quelle proportion?
Donc, la proportion et la dégradation de la terre au niveau du terroir du Kogourou, ça a amené la population dans une insécurité alimentaire, ce qui fait qu'il y a 30 à 40% des terres qui sont improductives et le déficit alimentaire dépasse souvent le 50% au niveau de la population. Donc, la population est incapable à répondre à ses besoins même pendant les périodes de production agricole moyenne.
Et pourquoi les terres se sont dégradées?
Et donc, les terres se sont dégradées parce qu'ici, il y a une pratique généralement de l'agriculture intensive, ce qui accélère la dégradation des terres. Et les terres dégradées sont délaissées par la population pour en défricher d'autres. Donc, ce qui, du coup, accélère le phénomène de la dégradation lié au système de défrichement qui favorise la déforestation des autres zones. Et ça contribue aussi à la dégradation des terres.
Et donc vous avez décidé de lutter contre cette dégradation des terres en relançant la production de la gomme arabique, qui est un composant très utilisé dans les produits pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques. Le Niger en exportait beaucoup entre les années 60 et les années 80, puis la filière s'est tarie alors que les potentiels sont énormes dans le pays. Comment est-ce que vous avez monté votre projet ?
Donc, nous avons eu à monter le projet à travers un diagnostic participatif au niveau communautaire, qui nous a permis d'identifier le problème à la base. Et le problème qui est cette dégradation continue ou accélérée des terres. Et ensemble avec les communautés, on a dit d'envisager des solutions pour renverser cette tendance. Et parmi les solutions qui vont favoriser de renverser la tendance, c'est justement la pratique de l'agroforesterie, qui va permettre de mettre en place des plans et les associer avec d'autres cultures intercalaires. Et ça va permettre de développer la production au niveau local, et ça va permettre encore de rehausser leurs revenus à moyen terme à travers l'exploitation et la commercialisation de la gomme arabique. Donc même le choix du plan a été fait avec la communauté. C'est ainsi que nous avons eu à monter ces projets.
Et en quoi le fait d'avoir suivi les MOOC proposés par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable vous a aidé ?
Oui, bon, depuis un certain temps, notre association et ses membres, nous suivons la plateforme Objectif 2030 de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Et le MOOC nous a intéressé particulièrement, le MOOC sur comprendre et analyser les enjeux et les sections du développement durable. Dans lesquels son module 5, il comprend vraiment les acteurs locaux et leurs projets territoriaux de développement durable. Donc, ce module nous a permis à comprendre les caractéristiques d'un projet de l'environnement et les étapes du montage d'un projet de l'environnement. Et le MOOC nous a facilité à faire l'analyse des besoins au niveau du terrain à travers une méthode qui a été décrite au niveau du MOOC, c'est-à-dire l'arbre à problème et l'arbre à solution. Et c'est ainsi que nous avons eu à lier l'objectif général du projet qui cadre avec les ODD et faire des objectifs spécifiques qui sont mesurables et acceptés par les parties prenantes du projet. Et quand nous avons soumis ce projet au niveau de la plateforme, ça a passé à une première étape et ça a été approfondi jusqu'à avoir le financement à travers l'Institut de la Francophonie et Développement Durable. C'est avec leur participation à hauteur de 80% que ce projet a eu à être réalisé.
Et depuis, vous avez développé d'autres projets, mais vous cherchez des partenaires pour vous accompagner.
Oui, justement, nous avons développé plusieurs projets dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement. Et nous sommes à la recherche de partenaires pour la mise en œuvre de ces projets.
Merci beaucoup, Abdou Maman Zaberou.
Merci, je vous remercie.
Autre projet soutenu par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, cette fois à Madagascar. Bonjour Mboing Andriamiamsou.
Oui, bonjour Anne-Cécile Bra.
Vous êtes chef de projet au sein de l'association Green Artso. Vous travaillez dans la région d'Ambouy-Mangakel où la dégradation de l'environnement accentue nettement la pauvreté.
Alors, la dégradation de l'environnement ne se situe pas seulement dans la région d'Ambouy-Mangakel, mais à Madagascar en général. On a déjà donc tout ce qui est déforestation, usage de produits chimiques, mais comme nous sommes à proximité d'Antananarive, donc ce que nous avons en commun avec les hauts plateaux, c'est le phénomène de la vaquisation, c'est-à-dire c'est tout ce qui est crevasse qui est formé par les eaux de ruissellement. Alors le problème, c'est que les surfaces cultivables s'amenuisent au fil du temps, et pour les rendre fertiles, les paysans s'endettent pour pouvoir s'ajouter de plus en plus d'engrais chimiques. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut absolument briser. Et la solution que nous avons trouvée, en fait, c'est de convertir les paysans à l'agriculture biologique.
Du coup, vous avez commencé à planter des arbres, parce qu'agriculture biologique et agroforesterie. Donc, du coup, vous avez commencé à planter des arbres sur 15 hectares sur 5 sites. Et vous avez notamment créé une forêt comestible. Alors, quel est le principe de la forêt comestible ?
Alors, la forêt comestible, c'est une forêt à plusieurs niveaux. Alors, pour que je puisse mieux vous expliquer, il faudrait peut-être prendre l'exemple d'un immeuble. Donc, dans le cas de la forêt, à ce moment-là, au rez-de-chaussée, nous aurons des céréales ou bien des légumes. Au premier étage, nous pourrions avoir des buissons fruitiers, donc comme les framboises ou les baies. Au deuxième étage, donc, nous aurions des fruitiers comme les pommiers ou les pruniers. Et au troisième étage, de grands arbres, en fait, qui seraient, par exemple, des arbres pour tout ce qui est bois de chauffe ou bois d'œuvre. et au sous-sol, nous pourrions avoir des tubercules. Ça fonctionne vraiment comme une forêt où tout ce qui se dégrade au niveau de la forêt va servir à refertiliser et permettre la croissance de tout ce qui va pousser.
Alors, vous avez débuté vos actions il y a 2 ans et demi. Quels sont vos résultats aujourd'hui?
Alors, à vrai dire, nous avons commencé à planter il y a déjà 2 ans et demi, mais c'était avec l'aide des paysans métayers du village et avec vraiment notre enthousiasme à nous. Donc, malheureusement, ce n'était pas suffisant puisque, en fait, c'est l'effet contraire que nous avons obtenu. Comme nous ne connaissons pas les techniques et tout, donc ce sont les trous que nous avons préparés qui ont contribué à dégrader encore plus les terrains. Donc, au final, sur 2000 arbres que nous avons plantés, seuls 100 arbres ont poussé. Donc, après, il y a 1 an et demi, nous avons effectué une formation en permaculture avec Écovillage Madagascar. Et grâce au savoir acquis et le support des ingénieurs agronomes qui sont également permaculteurs, nous avons commencé par rectifier la cause des laves avec les trous. Et on a canalisé les eaux de ruissellement, on a stocké les eaux sur le terrain. Donc, c'est pour augmenter le niveau de la nappe phréatique. Et nous avons planté des légumineuses qui ont servi à améliorer la fertilité du sol. En l'espace d'un an, le paysage a changé puisqu'on a déjà pas mal d'arbres qui ont poussé. Donc, c'est beaucoup plus vert maintenant et on n'a plus le petit désert qu'on avait avant.
Et quels sont vos objectifs?
Alors, on en a plusieurs. Le premier objectif, en tout cas, c'est l'autonomie. Donc, dans un premier temps, l'autosuffisance alimentaire. Mais ce qu'on voulait surtout aussi, c'est sauvegarder les espèces autochtones. On n'a plus du tout d'arbres autochtones à Madagascar. Là, déjà, pour en trouver, il faut vraiment aller sur la route de Tamata à 200 km. L'objectif à long terme, par contre, c'est que nous devenions un éco-village autonome. Essayer donc d'inciter les villageois et les propriétaires de terrains autour à nous rejoindre dans tout ce qui est agriculture biologique et mise en place de forêts alimentaires. Mais pour le moment, nous faisons face à un peu de résistance de la part de certains paysans qui sont habitués à leur méthode. Nous essayons donc, pour les convertir à l'agriculture biologique, de montrer d'abord par l'exemple et leur donner envie de répliquer ce projet sur leur terre.
Et en quoi le fait d'avoir suivi les MOOC proposés par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable vous a aidé?
Alors, nous avions le souhait de répondre à un appel à projet d'objectif 2030. Et afin de formaliser notre projet de forêt comestible, j'avais suivi le cours « Comprendre et analyser les enjeux et les actions du développement durable » donc sur le site d'objectif 2030. En ce qui concerne, en fait, cela fait longtemps que j'entends parler de développement durable, mais le cours m'a permis d'en apprendre plus, que ce soit au niveau de l'historique et surtout de mieux comprendre en fait ce qu'est réellement le développement durable et ses enjeux. Alors, par rapport à ce que j'en ai appris, en tout cas, c'est que concrètement, pour toute personne qui n'aurait jamais monté de dossier, mais qui a le souhait de monter donc son projet environnemental, cette personne peut tout à fait le faire en suivant pas à pas les modules du cours. Il y a même des exemples concrets pour nous permettre de bien comprendre les réalités par rapport aux réalités des pays du Sud et de l'Afrique subsaharienne. Donc, si on a un problème de connexion Internet, on peut tout à fait, en fait, participer au cours puisqu'on peut télécharger les cours en version PDF comme moi je l'avais fait. Et au moins, on a les supports qui restent à proximité si on a besoin d'avoir plus d'infos. En tout cas, en ce qui me concerne, le module étape de montage d'un projet environnemental m'a aidé à formaliser le projet et surtout à mieux réorganiser ma façon de travailler sur terrain avec les paysans également.
Merci Mboeng pour votre témoignage.
Merci beaucoup de m'avoir mise en lumière.
C'est la fin de cette émission. Merci à François Porcheron pour sa réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour échanger et voir des bonus en vidéo de nos invités. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur votre plateforme préférée. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain. Même planète, même heure.